Aujourd'hui, je vais parler du concept biblique du célibat. Le principe d'aujourd'hui, c'est le célibat est comme la sanctification. Vous avez besoin d'un but, d'un profond dévouement et de la pureté. Pour nous faire comprendre le concept biblique du célibat, il s'agit d'abord de bien comprendre le concept du mariage. Selon l'Écriture, le mariage est ce qu'unit un homme et une femme par le corps, l'âme et l'esprit. Pour Dieu, le mariage est une alliance et une alliance ne doit pas être rompue. Être célibataire signifie ne pas être marié et ne pas avoir des relations sexuelles. Car aux yeux de Dieu, avoir des rapports sexuels équivaut à devenir une seule chair avec votre partenaire. Et dans le regard de Dieu, il s'agit bien là d'une alliance, que soit ou non l'intention de deux partenaires. Si une personne a des relations sexuelles avec des personnes différentes avant de se marier, il ou elle rompt à chaque fois l'alliance avec le partenaire sexuel précédent. La seule raison pour laquelle il peut être possible de se remarier, c'est si l'un des partenaires rompt ou annule cette alliance. On peut briser une alliance de plusieurs façons, mais il n'y a qu'un principe à suivre. Ne jamais rompre une alliance. Bien sûr, vous comprenez facilement qu'il n'est pas donné à tout le monde de vivre une vie de célibat. Le fait de vivre notre vie avec un partenaire est dans notre nature. Être célibataire est une forme d'exception. Dans certains cas, la Bible utilise le terme « eunuque » en faisant référence à ceux qui restent célibataires toute leur vie. Mais le célibat à vie est un don de Dieu. Quand nous disons que c'est un don de Dieu, cela signifie que la personne recevra une capacité surnaturelle de rester célibataire. Si vous sentez que vous souffrez de rester célibataire, alors clairement c'est que vous n'avez pas ce don. C'est très simple. Vous l'avez ou vous ne l'avez pas. J'ai entendu des gens dire « j'ai peut-être le don de célibat après un échec dans leur mariage ». Cependant, voyez-vous, il y a un mot que nous ne pouvons pas associer à Dieu, et c'est le mot « peut-être ». Avec Dieu, soit les choses sont, soit elles ne sont pas. Il n'y a pas une demi-mesure. Alors, prenez le temps de réfléchir à ceci. Avez-vous une sensation de chaleur quand une personne aimable vous parle et vous attire? Ressentez-vous le désir d'être intime avec cette personne? Si vous vous battez pour ne pas avoir des relations intimes avec cette personne, ce qui en soi n'est pas mauvais, puisque le contrôle de soi est un fruit de l'esprit, alors sans doute vous n'avez pas le don de célibat. La maîtrise de soi est une chose spirituelle. Le célibat de toute une vie nécessite une forme ultime de contrôle de soi. Cet enjeu-là est bel et bien de nature spirituelle. Ce n'est pas une question d'ordre intellectuel. Je voudrais souligner un autre point que Jésus a dit. Vous pouvez être célibataire avec votre corps, mais Jésus nous dit que nous pouvons devenir adultères avec notre esprit. Maintenant, est-ce que cela signifie que vous ne pouvez pas être attiré par une personne? Ce n'est pas ce que Jésus veut dire. Toutefois, si vous êtes attiré par une personne et que cette personne vous inspire des fantasmes sexuels, selon Jésus, vous violez votre célibat. Quand vous regardez avec convoitise une autre personne, cela révèle que vous lui portez de l'intérêt. Souvenez-vous que dans la première leçon, nous avons parlé de l'importance d'une motivation centrée sur Dieu et non centrée sur soi-même. Par ailleurs, la Bible est très claire sur le célibat forcé. Aucune personne ne peut imposer le célibat à une autre. On retrouve ce genre d'abus dans certaines religions ou certaines sectes, mais il est clair que dans le passage de 1 Timothée 4, 3, Paul désapprouve telle pratique. Je voudrais insister sur un point qui, je crois, est la clé du célibat. Il s'agit d'un principe plutôt qu'une règle. Je crois qu'il vous aidera à regarder le célibat sous un angle différent. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être saints parce que Dieu est saint. Nous sommes appelés à la sainte prêtrise. Le terme saint ou sacré signifie que pas plus ou moins que être mis à part, en d'autres termes, qui est dédié à un but précis. En ce sens, les objets sacrés dans le temple pouvaient être utilisés uniquement dans un but précis, et non pour autre chose. Donc le mot « saint » signifie d'une part « dédié », mais contient aussi l'idée de pureté. Si vous désirez un mariage saint, alors il est évident que vous devez vous dédier et ainsi vous mettre à part pour cette seule personne. Lorsque les objets du temple étaient, disons, contaminés, parce qu'on l'utilisait à des mauvaises fins, ces objets étaient détruits. Demandez-vous si vous voulez un mariage saint. Demandez-vous également si vous êtes un partenaire saint. Vous ne pourrez avoir un mariage saint que si vous êtes un partenaire saint ou un célibataire saint. Se marier aux yeux de Dieu, c'est ne pas tester avant de s'engager. Certes, nous vivons aujourd'hui dans une culture de consommation, mais avec Dieu, ce n'est pas ainsi. Un partenaire seulement choisi par Dieu est-il bon? Absolument pas. D'ailleurs, dans la Bible, nous ne pouvons pas vraiment trouver des passages où Dieu dirait clairement à quelqu'un avec qui se marier. Il y a une exception, il s'agit du prophète Osée qui devait se marier avec une femme adultère. Sachez qu'en priant Dieu, il vous aidera à identifier le partenaire qu'il a béni pour vous. Cessez de spéculer sur l'identité de cette personne. Ne confiez pas à Dieu quelque chose pour ensuite le reprendre. Si vous lui faites pas confiance, dans ce cas, vous lui demandez alors pourquoi Dieu devait-il jouer un rôle dans votre mariage ou tout au long de votre célibat? Rappelez-vous ceci. Si vous demandez à Dieu de vous confier un partenaire de vie, vous aurez d'autant plus de raisons de vivre une vie sainte. Dieu est saint et ne pas transigera jamais sur ce point. La Bible dit qu'il n'y a aucune commune mesure entre les ténèbres et la lumière. Si vos actions n'entrent pas à la lumière du jour, alors vous marchez dans l'obscurité. Dans 2 Corinthiens 6, 14, nous lisons que se marier avec quelqu'un qui marche dans les ténèbres serait vivre sous un joug étranger. D'ailleurs, la Bible dit, ne vous mettez pas sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Et qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Rappelons-nous que le célibat, selon l'Écriture, c'est avant tout une question de sainteté.